bonsoir. Dans un message à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo invite la population congolaise à tout mettre en œuvre pour protéger la nation. Cela notamment en empêchant toute tentative de révision de l'article 220 de la Constitution. Par ailleurs, elle salue les efforts du gouvernement congolais dans la reconstruction du pays. En réaction, le gouvernement dénonce le procès d'intention de la CENCO. Quelle est l'offre de ces déclarations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 7 juillet 2014. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Vincent Depol Kekolimba, porte-parole du Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, CALCC en sigle. On me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Dans ce studio avec moi, Emmanuel Ramazani Chadari, député national de la majorité présidentielle et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il est secrétaire national chargé du processus électoral du PPRD. Monsieur Ramazani, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Professeur Moïla, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci parce que vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Emmanuel Mbouyou de Manono Katanga. Il est regrettable que dans un pays où la démocratie est encore dans ses premières expériences, qu'un gouvernement responsable puisse parler de procès d'intention devant la mise à nu d'un projet qui sera demain une réalité, je cite, la révision de la Constitution. Jean de Dieu Djari, depuis Dungu dans la province orientale, il n'appartient pas à la CENCO de mettre en veilleuse la population congolaise sur cette question des changements des articles de la Constitution. Bien au contraire, c'est la population qui en est le souverain premier qui mettrait en garde toute personne éprise de cette intention de changer la Constitution sans la consulter. Pour l'heure, il n'appartient qu'au chef de l'État de fixer ses opinions qui entrent en conflit les unes contre les autres. Merci de nous suivre à Kananga, au Kasai Occidental, sur la 93.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio. Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
La conférence épiscopale nationale du Congo appelle le gouvernement congolais à garantir la tenue des prochaines élections dans les délais. Dans leur message adressé à la nation mardi 1er juillet 2014, à l'occasion des 54 ans de l'indépendance de la RDC, les évêques congolais ont aussi invité la Commission électorale nationale indépendante à respecter les exigences du cycle électoral. Au cours de la même communication aux médias, la CENCO a invité la population congolaise à tout mettre en œuvre pour protéger la nation congolaise, notamment en empêchant toute tentative de révision de l'article 220 de la Constitution. On écoute l'abbé Santédi, secrétaire général de la CENCO, au micro de Michel Kifinda.
Nous désapprouvons tout mode de scrutin qui priverait le souverain primaire de son droit de désigner ses gouvernants et de participer directement à la gestion de la cité. Nous soutenons les élections des députés provinciaux et même des maires et des bourgmestres par mode de scrutin direct. Nous désapprouvons également toutes sortes d'initiatives qui, sans modifier directement l'article 220, viseraient à le vider de son contenu essentiel. Cette disposition constitutionnelle protège les options fondamentales relatives à la nature de l'État congolais, qui est une république et non une monarchie, à la nature du pouvoir politique. Ce pouvoir ne peut être ni personnalisé, ni autocratique et dictatorial. Pour un avenir meilleur de la nation, l'Église catholique utilisera des moyens appropriés pour sensibiliser la population et défendra les options fondamentales qui sauvegardent notre jeune démocratie et la stabilité du pays.
Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a, au cours d'une conférence de presse organisée jeudi 3 juillet à Kinshasa, indiqué que l'exécutif national désapprouve un procès d'intention sur une éventuelle révision de la Constitution que lui prête la conférence épiscopale nationale du Congo dans son message « Protégeons notre nation » publié mardi 1er juillet à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le gouvernement fustige notamment le choix de la CENCO sur le mode de scrutin électoral direct, a affirmé Lambert Mende. Jeff Ngoye nous en dit plus.
D'après Lambert Mende, il y a dans le texte des prélats un certain nombre d'éléments que partage le gouvernement.
Il s'agit de l'engagement pris par les évêques catholiques de s'investir dans la sensibilisation de la population congolaise pour promouvoir un processus électoral apaisé et de défendre les options fondamentales de la Constitution.
La reconnaissance par les évêques du travail abattu par le gouvernement.
Nous avons noté que les évêques catholiques reconnaissent que le gouvernement travaille à bâtir un Congo plus beau qu'avant, notamment par la maîtrise de l'inflation, l'augmentation du taux de croissance.
En revanche, le gouvernement n'est pas d'accord avec la CENCO sur son choix du mode de scrutin électoral direct.
En proclamant urbi et orbi sa désapprobation de tout mode de scrutin qui priverait, selon eux, le souverain primaire de son droit de désigner ses gouvernants, nous craignons que la Conférence épiscopale nationale du Congo se soit lancée dans un débat politique où elle donne l'impression de penser à tort que les options fondamentales relèvent du dogme.
Mende recommande aux évêques de ne pas violer la Constitution en interdisant ce qu'elle autorise ou en autorisant ce qu'elle interdit.
Merci Jeff Ngoy pour tous ces détails. Vincent de Paul Kekolemba, vous êtes en ligne?
En ligne, je sais.
Voilà. Vous êtes porte-parole du Conseil de l'Apostolat des laïcs catholiques du Congo, KCC en sigle. Quelle est votre lecture par rapport d'abord au message de la CENCO par rapport qui demande à la population de tout mettre en œuvre pour protéger la nation, cela notamment en empêchant toute tentative de la révision de l'article 220 de la Constitution?
Madame, je voudrais vous dire sans bambage que je suis en tant que tel, en tant que chrétien catholique, pas chrétien de surface, de prénom ou quoi, ou de dimanche ou quoi, je voudrais dire et redire toute ma confiance et mon approbation totale à la position de nos pères, les évêques. Parce que qui dirait mieux? Je voudrais comprendre que le gens soit en train de se noyer et qu'il y ait un monsieur qui prend un plaisir de rire, de se moquer. Je crois qu'ils ont fait leur travail de pasteur, alors de vrai pasteur. Je ne peux être que totalement d'accord avec ça. Je ne trouve pas d'autre matière ailleurs.
Mais le gouvernement dénonce ce procès d'intention de la CENCO. Il n'y a pas de preuves qui prouvent que le gouvernement voudrait modifier cet article de la Constitution.
Je voudrais revenir sur le propos de M. Lambert Mende, que je respecte beaucoup. D'abord, il dit que les évêques s'insurgent contre tout modèle de scrutin. C'est faux et archi-faux. Les évêques s'insurgent contre le modèle de suffrage indirect. Nous voudrions revenir au suffrage direct. Pourquoi? Parce que les évêques donnent toutes les raisons plausibles et compréhensibles de toute intelligence. Vous allez priver du souverain primaire. Vous lui ôtez de son droit le plus souverain, le plus légitime. Vous allez le substituer à des girouettes. Parce que vous aurez préparé dans vos états-majors qui doit participer à ce vote pour voter pour soi et pour qui? Alors. Non, je crois quand même qu'il y a quelque part un problème d'éthique. Le souverain primaire reste le peuple. Le geste d'aller au vote, c'est un geste sacré. Et ce geste ne revient qu'à ce peuple-là. Mais vous cherchez de subterfuges pour le lui arracher. Et vous pensez travailler pour ce même peuple. C'est vrai, il y a un peuple sans contenu. Mais s'il s'agit de ce peuple-là qui est réellement un souverain primaire, nous pensons que les évêques ne se trompent pas et n'ont pas dressé un procès d'intention aux gens. Parce que le débat ici, madame, il est actuel. Les gens ont annoncé de couleur. Puisqu'il faut aller au suffrage indirect, c'est sûr qu'on va toucher à la Constitution. À moins que nous soyons tous dans un pays de bord des aveugles, tout ça, mais qui se laisse entendre et comprendre, c'est que dès que le mode de scrutin change, absolument, il faut et logiquement aller toucher la Constitution. Et en mais quoi les évêques seraient-ils en train de tenter un procès d'intention au gouvernement?
Mais est-ce qu'il y a des preuves qui démontrent que le gouvernement a l'intention de réviser l'article 220 de la Constitution?
Madame, je voudrais vous dire une chose. La CENI ne peut pas travailler La CENI appartient à la République démocratique du Congo. La CENI ne vient pas au-dessus de la Constitution. La CENI, c'est une institution en principe d'appui à la démocratie. La démocratie est pilotée et sauvegardée et par leur gouvernement. Quand la CENI propose ce mode de scrutin, quel est le point de vue du gouvernement pour qu'on ne lui dise pas que le gouvernement souscrit à cela? Le gouvernement a donné, vous allez demander des preuves, M. Lambert, mais des porte-parole du gouvernement est mieux placé pour savoir si le gouvernement est d'accord avec la CENI ou pas. Quelles sont les consignes qu'ils ont données aux états-majors, à l'Assemblée nationale et au Sénat? Ces lois sont déjà presque... Et le gouvernement, je voudrais vous dire, madame, a déposé une série de lois à l'Assemblée nationale, disons au Parlement. Mais quel est le contenu de ces lois? Depuis qu'il y a cela, et puis qu'il y a la CENI qui propose de changer de mode de scrutin, pourquoi ne peut-on pas penser et comprendre que il y a un problème quelque part? Est-ce qu'il y a une révision en perspective? C'est pas un secret de Polichinelle. Pourquoi veut-on faire croire que tout le monde est aveugle dans ce pays?
Merci.
Tout le monde est inintelligent. Il n'y a que le super de gouvernement qui sont. Non, quand même.
Merci, nous monsieur Keiko Lemba. On va vous redonner la parole dans le deuxième tour de table. Emmanuel Ramazani Sadari, je rappelle que vous êtes député national de majorité présidentielle et président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Vous êtes également secrétaire national chargé du processus électoral du PPRD. Comment vous avez accueilli ces messages des évêques catholiques?
Merci madame. Moi je crois que les évêques comme les chefs de l'église catholique qui sont également des Congolais sont en droit de donner leur position par rapport à l'actualité politique de l'heure. Vous savez que nous sommes dans un état de droit. Il faut que l'on puisse respecter les idées de tout le monde. Il ne faut pas imposer son point de vue, mais plutôt il faut convaincre. Moi, je pense que les évêques ont fait un bon message dans l'ensemble. C'est un bon message. Et je pense également qu'il n'y a pas de procès d'intention. Et lorsque nous venons ici, moi, je suis député national, président d'un groupe parlementaire PPD, je viens donner mon point de vue. Je ne viens pas donner le point de vue de mon parti parce que on m'a appelé il y a 15 minutes pour venir à votre radio. Il faut convaincre. Les évêques ont parlé par leur message. S'il y a un autre message contradictoire, il faut le faire, mais il faut éviter, surtout la presse, les uns et les autres qui tirent les ficelles, il faut éviter qu'on dise qu'il y a un bras de fer entre l'Église catholique représenté par la SENCO et le pouvoir en place. C'est très dangereux parce que nous savons qu'il y a une collaboration aujourd'hui entre l'Église catholique et le pouvoir en place. Nous avons beaucoup de données. Alors, quand il parle de mode scrutin, quand il parle de la révision de l'article 220 de la Constitution, à ce niveau-là, je trouve que ce message était un non-événement.
Pourquoi?
Un non-événement parce que ce sont des redites. Des redites, ce n'est pas parce que la SENCO a parlé que ça peut faire l'objet d'un événement. C'est du déjà entendu par les canaux d'une certaine classe politique qui se dit l'opposition, par le biais de la société civile qui ne veut pas qu'on révise l'article 220, et même, madame, surtout par la majorité présidentielle. Rappelez-vous, sur la RFI et d'autres chaînes périphériques, le secrétaire général de la majorité, qui est en même temps président d'une institution, le Parlement, l'Assemblée nationale, Obe Minaku, a dit qu'il n'est pas question pour nous, la majorité, de réviser les articles intangibles, les articles verrouillés par la Constitution. Il a dit que nous allons respecter la Constitution. Maintenant, d'où vient que tout d'un coup on parle de la révision constitutionnelle? C'est pourquoi j'ai dit c'est un non-événement.
Mais en réduisant les articles sous le mot de scrutin, ça peut être une porte pour la majorité de réviser aussi l'article 220. C'est l'inquiétude, c'est ça l'inquiétude.
Quel article?
Le gouvernement propose que les scrutins, l'élection des députés provinciaux s'efface au suffrage indirect.
Le mode de scrutin est du domaine de la loi, madame. C'est la loi qui détermine le mode de scrutin pour le processus électoral. Et ceux qui votent la loi, ce sont les députés nationaux et les sénateurs, donc les parlementaires. Aujourd'hui, dites-moi dans quelle loi, même si on a déposé un projet où on dit les députés ont voté pour le changement de tel article en faveur ou en défaveur des députés, de l'élection des députés provinciaux. Non. Quand le gouvernement propose, vous avez suivi les ministres de la Justice et venez avec trois projets de loi que l'Assemblée nationale a rejeté. Quand le gouvernement propose, il fait des projets de loi, mais il appartient aux élus du peuple que nous sommes de pouvoir dire ce projet est en direction avec l'intérêt du peuple ou pas. Nous sommes des élus du peuple. Nous répondons de nos actes devant le peuple. Donc, quand il y a un projet déposé par le gouvernement, il ne faudrait pas qu'il y ait une agitation d'une certaine classe politique qui peut être cachée derrière la société civile ou derrière la SENCO. Il ne faudrait pas qu'il y ait de l'agitation. Les évêques ont fait leur déclaration. Dire qu'ils vont viser la population pour qu'il y ait des élections apaisées et crédibles. Est-ce que c'est mal? Nous sommes d'accord avec ça. C'est nous qui sommes acteurs. Quand il y a élection, nous voulons que ce soit des élections crédibles et apaisées. Les évêques ont demandé qu'ils vont viser les peuples. Nous allons les encourager à ce que nous et eux, nous puissions viser les peuples pour que les élections soient crédibles et vraiment des élections apaisées. Donc je crois que c'est un non-événement. Il n'y a rien de plus qu'ils ont donné et il ne faudrait pas nous entraîner dans des polémiques inutiles.
Merci Ramazani Chadari, professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique dénoncé en France. Quelle est votre lecture par rapport à ces déclarations de la SENCO et du gouvernement congolais?
Bien, madame, il y a peut-être la première chose qu'il faille souligner et que ces débats entre la société civile, la SENCO, les ONG, les partis politiques, d'une part, le gouvernement de la République, la majorité présidentielle, attestent s'il en était besoin de la vitalité démocratique dans ce pays. Dieu sait que à longueur d'années, le Congo a été brocardé pour n'avoir pas été ou n'avoir pas franchi le cap d'une société démocratique. Ce débat est en train de démontrer petit à petit que le Congo s'enracine dans le cadre de sociétés démocratiques. Donc, il y a là, à mon avis, quelque chose qu'il faut souligner et il faut féliciter tous ceux qui, de loin ou de près, dans l'intérêt supérieur de ce pays, au lieu de donner la parole aux hommes de guerre qui ont englouti ce pays dans les meilleurs voisins d'année, je pense que nous sommes là dans une perspective tout à fait respectable d'entendre le pays réel se parler lui-même en utilisant les armes démocratiques, c'est-à-dire sans l'usage de la force. La deuxième remarque est que la SENCO, comme les autres ONG, exerce le pouvoir d'interpellation ou d'alerte. Interpeller qui? Interpeller le gouvernement de la République, interpeller les gouvernés pour les éveiller sur quoi? Sur la nécessité de la sauvegarde de la Constitution. Pourquoi? Dans ce temps de péril, d'incertitude, de menace, de guerre que ce pays, Dieu sait, il est en train d'en sortir péniblement et que tout n'est pas encore fini, la Constitution est le dénominateur commun du vouloir vivre ensemble des Congolais afin de bâtir un destin commun. Donc, la Constitution est le bien commun de tous les Congolais. Majorité, opposition, société civile. Que les évêques en disent un mot, c'est tout à fait normal On ne peut pas leur jeter de pierre. D'ailleurs, M. Ramazani, que je salue ici, a eu de mots justes pour dire que on est là au cœur d'un débat républicain démocratique. Et en face, la majorité présidentielle a réagi. On rappelle déjà qu'il y a quelques mois, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, Robert Minaku, avait dit à Paris, si mes souvenirs sont exacts, que l'article 220 ne sera pas modifié. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, Monsieur Mende Omalanga, le porte-parole du gouvernement, revenait à charge pour dire que la volonté du chef de l'État est de ne rien bouger sur cet article 220. Donc, la majorité répond à l'opposition, répond à la société civile pour dire tout cela, c'est des procès d'intention, ce qui est tout à fait légitime. Pourquoi? Parce que pour l'instant, nous sommes dans un débat, il y a des options réelles ou supposées, on prête des intentions à la majorité prête des intentions à la société civile, à l'opposition, ce qui est dans une société démocratique tout à fait normale. Pour l'instant, rien n'est venu corroborer ni la volonté du gouvernement de changer la Constitution en général, ou de changer l'article 220 en particulier. Il y a des tentatives, on parle des projets que le gouvernement aurait déposés, on ne sait pas quelle sera la position du Parlement et du Sénat. Probablement, il y a quelque temps, on avait parlé des supputations de quelques députés de la majorité qui voulaient enfourcher pour dire, ben voilà, la Constitution n'est pas immuable, on peut la réviser. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, l'essentiel est que la Constitution comprend deux parties. Il y a une partie de la Constitution qui peut être révisée. Le constituant lui-même l'a prévu. Et il y a une partie de la Constitution qui n'est pas soumise à révision. Donc, tout ceci est tellement clair qu'on n'a pas à se chagriner là-dessus. Alors, où est le problème? Le problème vient du fait que la société congolaise depuis les années 60 n'a jamais été fondée sur un consensus politique minimal. Les élites congolaises sont à cheval entre majorité, opposition, société civile et au-delà. Alors, résultat, tout le monde n'a pas la même idée de l'intérêt national. Selon qu'on est dans la majorité, selon qu'on est dans l'opposition, selon qu'on est dans la société civile. Et c'est charivari de renvoi dos à dos de quiconque veut prendre la parole, des supputations, des intentions malveillantes ou bienveillantes qu'on adresse aux uns aux autres, qui fait que ce débat est devenu un peu kafkaïen. Mais on peut souhaiter que dans l'échange républicain qui a commencé, qu'à force d'échanger d'arguments, je pense que demain, lumière sortira de ce débat. Et que, pour l'instant, on ne peut pas ni accuser le gouvernement, ni accuser la CNTO ou la société civile d'avoir outrepassé sa compétence.
Merci, professeur Moïla Tchiembe. Vincent de Paul Kekolimba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Je pense que cette déclaration de la CENCO est une bonne chose, mais elle ne suffit pas jusque-là à convaincre la majorité de se défendre de son intention manifeste de réviser ou de modifier la Constitution. Encore faut-il que la CENCO mette réellement à la portée de la population des stratégies pour lui permettre de contrecarrer efficacement ces dessins politiciens de la majorité, auquel cas ce serait déclaré pour déclarer.
Comment vous répondez à Robert Baomé? Vincent de Paul Kekolimba, vous êtes en ligne? Je crois qu'on a perdu Monsieur Kekolimba, la réaction, la réalisation, on va essayer de le retrouver. Il y a aussi une question pour vous, Ramazani Chadari, qui nous vient de Goma, au nord Kivu.
Pierrot Mouviri, à partir de Goma, province du Nord Kivu. La déclaration de la CENCO est responsable, puisque l'âme ne peut pas être à l'aise lorsque le corps souffre. Je salue le courage des évêques, puisqu'ils militent pour le bien-être du peuple congolais sans voix. En plus, le gouvernement ne doit pas dire que c'est un procès d'intention, puisqu'on a vu comment il a agi à la veille des élections de 2011. La révision constitutionnelle et sa tactique de se maintenir au pouvoir. Les évêques le disent suite à l'expérience malheureuse vécue en 2011. Bravo à nos très chers évêques, car ils jouent le rôle de nos députés qui semblent ne plus militer pour notre protection.
réaction, Ramazani Shadari?
Il dit exactement ce que j'ai dit. Moi, j'ai salué la déclaration de la CENCO, mais j'ai noté que ce n'est pas un événement. Parce que la CENCO répète ce que nous avons déjà entendu par l'opposition, par la société civile et par la majorité présidentielle. Et le professeur Moïla Tiembe vient de répéter ici que dans la Constitution, il y a des dispositions qui sont intangibles, c'est-à-dire verrouillées, qu'on ne peut pas changer, et il y a également des dispositions qu'on peut changer à tout moment. Ça, c'est le constituant lui-même qui l'a voulu. Donc, je salue l'orité de tout à l'heure. Il n'a pas ajouté quoi que ce soit par rapport à ce que
Mais il dit par rapport à l'expérience de 2011, tout peut arriver avec la majorité.
Bon, la majorité, c'est lui-même. Lui-même aussi, il est de la majorité. Je ne sais pas s'il est de l'opposition ou bien de l'Église catholique ou de la société civile. Mais nous ne voulons pas qu'il y ait des polémiques inutiles parce que aujourd'hui, la majorité n'a rien modifié des dispositions intangibles et que.
Alors, Monsieur Ramazan, essayez de parler dans le micro parce que là, on ne capte pas bien.
Et ce que la CENCO a fait comme déclaration, nous le répétons, c'est connu de tout le monde. C'est juste un rappel pour dire qu'il faut faire attention, il ne faut pas réviser les dispositions intangibles.
Alors, on me signale que Monsieur Kekule Mbaye est en ligne. Monsieur Vincent Despaules, vous êtes là?
Je suis là, madame.
Voilà, il y a une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu au sud Kivu.
Je pense que cette déclaration de la CENCO est une bonne chose, mais elle ne suffit pas jusque-là à convaincre la majorité de se déprendre de son intention manifeste de réviser ou de modifier la Constitution. Encore faut-il que la CENCO mette réellement à la portée de la population des stratégies pour lui permettre de contrecarrer efficacement ses dessins politiciens de la majorité, auquel cas ce serait déclaré pour déclarer.
Réaction.
Merci beaucoup, madame. J'espère que vous m'entendez.
On vous entend très bien.
Merci, madame. Je disais tout à l'heure que je saluais d'abord l'intervention de l'honorable Shadari et aussi l'intervention du professeur. Revenant sur l'intervention de l'honorable, je me dis, c'est vrai, c'est un non-événement, mais je crois que c'est le porte-parole du gouvernement qui a créé l'événement et qui en crée toujours. S'il faut prendre la position de l'honorable qui nous dit que les évêques n'ont fait que rappeler. Mais nous apprenons par ailleurs que la répétition, ça vient de la science. Il est bien vrai que ça n'a été qu'un rappel. Parce que de toute façon, les évêques ne demandent l'intervention de personne parce que les évêques traitent avec les institutions. Les évêques, dans un premier temps, avaient écrit au chef de l'État qui a reçu le document. Si on, au deuxième niveau, on a rendu public cette, ça ne devrait remuer personne, comme le dit l'honorable. Nous devons prendre acte. Nous dire, nous ne sommes que des humains, il nous revient de nous rappeler les uns les autres ce qui est bon, mieux à faire et ce qui ne l'est pas. Alors, si les évêques ont fait ça, c'est comme l'honorable a si bien dit, il incombe aux citoyens de ce pays de prendre position dans un débat national, actuel et démocratique. Le professeur n'est pas allé ailleurs. Il nous a aussi dit que les uns les autres, dans un débat démocratique, peuvent donner leur point de vue. Si cela blesse quelque part, les gens doivent s'interroger, c'est à quel niveau et pourquoi. Comment faire pour que cela ne gratine plus, pour que cela ne blesse pas, pour que ça ne fasse pas saigner? Donc pour moi, je considère vraiment que l'honorable Shadari est sur une bonne voie, je dirais. La position, je la trouve correcte. Dans le sens que, bon. Mais quand il revient sur le non-événement, je tiens à souligner que l'événement est créé quelque part. Ceci fait l'objet d'ailleurs de cette émission. Mais quand aux amis de Bukavu, mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes tous des chrétiens catholiques. Et les évêques ne sont pas plus chrétiens que nous. Mais comme responsables, comme bergers, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il revient à nous autres laïcs de prendre des actions concrètes pour barrer la route aux fossoyeurs de la République, pour barrer la route à ceux qui ne réfléchissent pas comme le bon dirigeant de la République. Parce que la République, ce nous appartient à nous tous.
Mais c'est quoi ces actions que vous allez mener pour contrecarrer l'intention, comme vous dites, du gouvernement de pouvoir réviser la Constitution? Est-ce que ça ne serait pas un appel à la révolte?
Non, madame, comme le disait l'honorable, nous allons d'abord demander aux citoyens catholiques de bien lire la Constitution et de savoir que le fameux souverain primaire dont on parle, ils en font partie et que là où ils sont obligés. Ils ont le devoir de savoir ce qui se fait dans le pays, pourquoi et pour qui. Si c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, qu'ils se dressent tous comme un seul homme pour soutenir les autorités du pays. Mais si c'est pour leurs intérêts d'une certaine cour des individus, nous devons nous lever tous pour leur barrer la route et leur dire, frères et sœurs, là je crois que vous êtes à côté de la plaque, voici la direction que nous voudrions prendre, vous et nous, pour aller vers le meilleur destin de ce pays.
Merci.
Voilà.
Alors, Ramazani Shadahi, il faut sensibiliser la population pour comprendre, connaître les articles de la Constitution, c'est aussi un travail des parlementaires.
Non, pas seulement le travail des parlementaires.
Entre autres.
C'est le travail de tout le monde. Partis politiques, associations, églises, et tout mouvement qui aspire à la citoyenneté. Il faut que tout le monde sensibilise la population. Parce que celui qui vient de parler là-bas, monsieur... dans un premier temps, il a parlé de mode de scrutin. Bon, je crois qu'il faut faire un débat. Il faut faire un débat et ne pas se limiter à ce qui a été dit par le ministre Mende ou par la CENCO.
Il est quand même le porte-parole du gouvernement.
Il faut qu'on se mette ensemble, lui par exemple, et nous tous, pour qu'on dise quel est le mode de scrutin valable pour les prochaines échéances électorales. Je crois qu'au niveau de la CENCO, il y a des grands intellectuels. Il y a des juristes, il y a des politologues. Bon, je ne parle pas de ceux qui ont fait le droit canon, mais ils connaissent quand même le droit constitutionnel et la Sciences Po. Et lorsqu'on propose le mode de suffrage indirect, ce n'est pas pour dire que les souverains primaires a été déboussolé. Non.
Ça sera privé la population d'élire leurs représentants.
C'est pourquoi j'ai dit, madame, je crois que c'est un domaine que vous ne maîtrisez pas. Il faut un débat entre les gens qui connaissent le domaine.
C'est un domaine que je ne maîtrise pas,
oui,
c'est un débat.
Entre
on vous invite ici pour éclairer l'opinion.
On n'a pas le temps. Si je vous dis, vous expliquez les mots de suffrage universel direct et indirect, ça prendra beaucoup de temps. On va vous donner des avantages, des inconvénients, les contextes d'un pays et un autre, mais en Afrique du Sud. Comment le président est élu? Il est élu au suffrage universel indirect. Aux États-Unis, comment ils sont élus? Mais nous allons prendre des contextes. Est-ce que c'est bon pour le Congo? Est-ce que ce n'est pas bon pour le Congo? Mais vous pouvez élire les bourgmestres au suffrage universel direct. Mais quand il commet une gaffe, qui va les porter en accusation? Le bourgmestre, c'est toute la population? Ou bien c'est un groupe des élus de la base?
Mais dans le contexte congolais, est-ce que vous pensez que c'est
les sénateurs
bon
aujourd'hui, c'est pourquoi je vous dis on n'a pas les sénateurs aujourd'hui.
Non, brièvement, est-ce que vous pensez que c'est bon pour, dans le contexte congolais, d'élire les députés?
Je n'ai pas encore pris une option. Moi, je demande qu'il y ait un débat républicain entre les personnes qui maîtrisent le dossier. Je vous demande si les sénateurs aujourd'hui, ils ne sont pas sénateurs parce qu'ils ont été élus au second degré. Pourquoi on n'a pas demandé que les gouverneurs soit élu au suffrage universel direct. On ne parle que des bourgmestres et des maires, alors que les gouverneurs ont des compétences importantes. Donc je crois que, j'insiste, il ne faut pas faire la polémique pour la déclaration des évêques. Il ne faut pas polémiquer parce que ce n'est pas un événement.
Et c'est le porte-parole qui a créé l'événement, comme l'a dit M. Kekolemba.
Il dit que le porte-parole, il a fait son travail. Il répond dans un débat républicain. Moi, j'invite que tous les Congolais se mettent autour d'une table pour discuter toutes les questions qui demandent un débat.
Ça sera dans quel cadre?
Dans un cadre comme ici à la radio.
On peut venir discuter.
Dans le dialogue entre Congolais, on a invité les experts, on a matière.
Oui, il n'y a pas de problème.
Merci.
On prend une heure, on discute et puis les gens nous suivent.
Merci Ramazani Shadari, professeur Mwailati Mbé. Il y a une réaction pour vous qui nous vient du Katanga.
Gauthier Mouseka à Fungurume, précisément au Katanga. Il s'agit là d'un exercice démocratique auquel la CENCO joue et toute autre confession ou organisation ou encore parti politique a le droit de penser comme elle ou différemment. Mais ce qui nous inquiète ici, c'est la position que prennent certains partis politiques en accusant la CENCO d'avoir fait un procès d'intention au moment où tout le clignotant indique que la Constitution est en danger. Il est grand temps que l'on regarde tous sous la direction de la vérité et que l'on mette fin à des calculs politiciens. Ceci nous permettra de reconnaître à juste titre les vérités que relatent les autres, quand bien même ils ne sont pas de notre audience.
Professeur Moïla Chiembe.
Ben, je pense qu'il s'agit effectivement d'un exercice démocratique, comme je le disais tout à l'heure. Évidemment, le porte-parole du gouvernement a parlé de procès d'intention. Vous savez, les mots ont parfois un sens ou qui reste dans la pensée de celui qui le prononce ou qui dépasse sa pensée. Je pense qu'on ne peut pas en faire un débat singulier. Il faut revenir à la raison et considérer que nous sommes là au cœur d'un débat démocratique, comme l'honorable Ramazani vient de le rappeler à nouveau, et qu'il est de l'intérêt de tous les Congolais de pouvoir s'intéresser d'abord à la connaissance de la Constitution. Je rappelais que l'article 64 de la Constitution dit exactement ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Donc, la première partie, nous ne sommes pas aujourd'hui devant un individu ou un groupe d'individus qui prétend prendre le pouvoir par la force. Le gouvernement actuel a été élu démocratiquement, il exerce ses mandats, le Parlement a été élu, une partie naturellement, les députés et les sénateurs l'ont été, même s'il n'y a pas eu d'élection entre-temps pour renouveler leur mandat, mais tout ça est républicain et démocratique. Alors, l'autre bout de cet article, c'est lorsqu'on aura la preuve, si tant est que preuve il y est, qu'il y a volonté réelle, non seulement d'exercer le pouvoir, mais de l'exercer en violation des dispositions de la présente Constitution, que ce soit l'article 220 verrouillé sur lequel coule de l'encre et des salives, ou pas d'autres dispositions de la Constitution, notamment le suffrage universel. Vous êtes en train de discuter avec M. le député et fort sur le suffrage universel. Un État démocratique est fondé sur le pouvoir populaire. Évidemment, on a cité le cas de l'Afrique du Sud, de l'Angola et que sais-je encore. Mais il faut toujours prendre appui sur l'histoire de chaque pays. La République démocratique du Congo, ce n'est pas l'Angola. La République démocratique du Congo, ce n'est pas l'Afrique du Sud. Et vice-versa. Donc, il est de l'intérêt de chacun, élu ou non élu, église, citoyen, ONG, chacun doit exprimer son opinion pour montrer la spécificité. La spécificité est dans la volonté du constituant. Le constituant congolais a prévu un mode d'élection que nous connaissons à ce jour que personne n'a remis en cause pour une raison ou une autre. Alors ce débat est venu par le biais, non pas sur la demande du président de la République, encore moins sur la demande du gouvernement, encore moins sur la demande du Parlement, des deux chambres réunies, mais ce débat vient de la part de la CENI. C'est la CENI qui, au lieu de s'occuper de ce qui lui est reconnu comme pouvoir constitutionnel d'organiser les élections. Si la CENI avait dit, donnez-moi les moyens pour que j'organise les élections libres, démocratiques et transparentes, voici combien ça coûte, quels sont les moyens que la République peut mobiliser, quels sont les moyens que les partenaires de la République peuvent mobiliser? Donnez-moi les moyens. Si vous ne me donnez pas les moyens, il n'y a pas d'élection. On ne serait pas dans ce débat. C'est parce que la CENI est sortie de son devoir de réserve en disant oui, pour qu'il n'y a pas de moyens, changer le mode de scrutin, notamment au niveau local.
C'est ça qui vient de lancer le débat. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le Parlement, ce n'est pas le président de la République.
Merci, professeur Moïla Tchimbe. Les auditeurs sont nombreux à nous envoyer leurs réactions. Ferdinand Moutombe, depuis Kolosio Katanga, les évêques ont eu raison d'alerter et d'attirer l'attention de tout le monde face à une perspective 2016 assombrie par des manœuvres politiciennes visant à tripoter la Constitution et la loi électorale. Il est plus que temps de mobiliser et sensibiliser la population à travers toutes les provinces du pays. Papi Kassema de Kinshasa, la déclaration de la CENCO est fondée et légitime vu la place qu'occupe l'Église dans la vie nationale. Cette déclaration interpelle et attire par ailleurs l'attention non seulement des chrétiens qui sont au pouvoir, mais aussi de ceux de l'opposition, parce qu'il est inquiétant de constater que le pays ne fait que plonger dans l'abîme alors que la majorité des acteurs de la classe politique congolaise est chrétienne. Jean de Dieu Djari, depuis Dungu dans la province orientale, il n'appartient pas à la CENCO de mettre en veilleuse la population congolaise sur cette question. Question des changements des articles de la Constitution. Bien au contraire, c'est la population qui en est le souverain premier qui mettra en garde toute personne éprise de cette intention de changer la Constitution sans la consulter. Brève réaction, Vincent Depaul Kekolimba, sur ces points de vue des auditeurs qui nous écrivent.
Je vous remercie, madame, encore une fois de plus. Je voulais saluer l'ami de Katanga. Mais quand ça se fait de, vous avez dit Irungu, c'est pas mal à la province orientale.
De Dungu dans la province orientale.
Oui, je voulais lui demander de commencer par comprendre que quand les évêques parlent, ils ne prennent pas une position dogmatique comme on l'aurait entendu. Et d'ailleurs, profitant de cette intervention, je voulais nous rappeler en fait, devant ce genre de débat, il vous incomberait à vous qui organisez cela de nous donner d'abord tous les textes. Parce qu'il y en a qui parlent, on a entendu une phrase et puis on s'en prend cela. C'est un peu comme dans la Bible, certains bons pasteurs ici, ceux qui les arrangent, comme certains de nos politiciens qui disent à l'Afrique du Sud, aux États-Unis. Mais quand on leur dit comment ces gens de l'Afrique du Sud ou des États-Unis sont arrivés là? Ben là, non, nous ne sommes plus, les États-Unis ne sont plus là, là, là. Mais non, le problème, comme le disait le professeur Paul de Conchex, les évêques nous rappellent.
Allô, monsieur Kekolimba?
Je vous en prie. Alors, les évêques sont des éveilleurs de conscience. Ce sont des pasteurs. Ce sont des prophètes au sens premier du terme. Ils précèdent les événements parce qu'ils en font une lecture qui le détache de nos trains de vie, de nos entraves, de nos obscurités.
En conclusion, il nous reste moins de 3 minutes.
En conclusion, je voulais dire que la position des évêques reste légitime, reste attendue et
merci.
Sera toujours attendue. Et nous, laïcs, nous devons relayer, même prendre les bancs même de devant, parce qu'en fait, nous,
merci,
ce que nous disons,
doit
relever de l'éthique chrétienne. C'est-à-dire, nous sommes à la suite du Christ.
Merci, monsieur Kekolimba. Nous sommes désolés. Ramazani Sadari, en guise de conclusion, un mot.
Bon, en conclusion, je répète, je dis que le message de la CENCO n'est pas un événement majeur pour l'actualité de ce pays. Et lorsqu'on dit que les évêques sont des pasteurs, ils sont des prophètes, il faut les suivre. Et je crois que notre ami doit faire attention. Nous sommes tous des laïcs. Je suis aussi chrétien catholique. Je connais ce qui se passe dans notre église. Et je connais la position des abbés. Je connais la position dans les paroisses. Je connais également la position de l'église catholique au niveau de Kinshasa. Je connais la position du cardinal Mosengo par rapport au pouvoir actuel. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, mais nous savons que parfois le cardinal instrumentalise certaines personnes au profit de l'opposition. Donc il faut bien suivre ce que les évêques disent, mais il faut être au milieu du village au lieu d'être à l'ouest du village.
Merci, honorable Ramazani Chadari. Professeur, un mot pour conclure.
Ben, on peut conclure en souhaitant que ce débat soit à la hauteur de l'intérêt national. Parce que dans toute chose, il faut considérer la fin, que la révision soit, que la Constitution soit révisée ou qu'elle ne le soit pas.
l'important est de sauvegarder l'intérêt national, la paix, la concorde nationale dont ce pays a ardemment besoin aujourd'hui et demain.
Merci professeur, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. Mimi Kindou était à la mise en onde. Bon, suite de programme sur la fréquence de la paix.